On est venu à la montagne pour passer un peu de temps ensemble. Donc, on est venu pour avoir de la communion fraternelle. Et j'espère aussi qu'on est venu pour avoir de la communion avec Dieu. C'est ça que je voulais faire comme sujet, justement analyser un peu notre communion avec Dieu et notre communion fraternelle. Donc, on va commencer ce soir avec la communion de Dieu et surtout de voir qui est ce Dieu avec qui on a la communion, qui nous offre d'avoir une relation. Et j'espère que demain et après-demain, on va voir un peu le fruit de cette communion qu'on a avec Dieu. Et pour justement donc analyser ce sujet, je vous fais vous lire un petit passage au début, la première lettre de Jean. Donc on va voir les premiers quatre versets ce soir. Donc première lettre de Jean. Je vais vous lire. Donc, verset 1, verset 4. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont palpé, il s'agit de la parole de vie. Car la vie s'est manifestée, nous avons vu, nous rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui s'est manifestée à nous. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, pour que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. Cela, nous l'écrivons pour que notre joie soit complète. En fait, donc, Jean qui nous écrit ces quelques versets, il avait une... perspicacité très profonde concernant le sujet de la communion avec Dieu, parce qu'en fait Jean il a passé au moins 3 ans de sa vie avec Jésus sur la terre. Il était un des 3 disciples qui était dans le groupe le plus proche de Jésus. Il faisait partie du groupe qui montait sur la montagne pour la transfiguration. Il était avec Jésus à Gethsémané dans les moments les plus difficiles de la vie de Jésus. Donc, en fait, il connaît pas seulement les mots de Jésus, mais il connaît vraiment sa vie privée. Il a vraiment contemplé et il sait donc que Jésus, c'est pas seulement un homme. Il sait très bien que c'est un être humain, mais il peut vraiment nous témoigner aussi que c'était Dieu. Et il commence sa lettre avec les premiers mots, ce qui était dès le commencement. En fait, le mot grec utilisé ici pour commencement, c'est arché. C'est un mot qui n'exprime pas un moment dans le temps, mais s'exprime plutôt une origine, ou même ce qui a causé l'origine. Donc en fait, Jean nous parle ce qui avait déjà avant le commencement, avant la création. Et c'est en fait le même mot commencement qu'on trouve au premier verset de la Genèse, donc le premier verset de la Bible, où c'est marqué « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre ». On voit bien que c'est au commencement, avant la création, il y avait Dieu. Et dans la Genèse, le mot « Dieu » c'est très intéressant, il est marqué au pluriel. Donc en fait, ça déjà dans le premier verset de la Bible, on a la première indication de la Trinité de Dieu. Donc on sait tous que ça ne veut pas dire qu'on a plusieurs dieux, mais qu'on a un Dieu qui a plusieurs entités. Et Jean, il commence donc sa lettre ici, de cette même façon que la Genèse. Il a aussi commencé son évangile de la même façon, donc c'est vraiment quelque chose qui était très important pour lui, pour quelqu'un qui était proche de Jésus. Il commence sa lettre ici avec ce qui était dès le commencement. Il continue avec ce que nous avons entendu. Ce que nous avons entendu, là il prend référence à la tradition et les anciennes écritures que les Juifs ils avaient. Donc la Torah, le Talmud. Et donc au début, il s'adresse maintenant aux Juifs. Et il garde le même style, la même forme, en disant ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, et il continue avec ce que nous avons vu, ce que nous avons contemplé, ce que nous avons palpé. Donc rien que par la sélection des mots, il décrit maintenant qu'il parle d'un être humain. Quelqu'un qui l'a vu, quelqu'un qui l'a palpé, quelqu'un qui l'a contemplé. Et en plus, spécifiquement par ces mots, il indique déjà qu'il va parler de Jésus. Parce que c'était Thomas qui voulait justement toucher Jésus après la résurrection pour savoir que c'est vraiment Jésus, qu'il est vraiment vivant. Et en disant que le mot contempler, donc c'est, si j'ai bien regardé, ça veut exprimer en français d'observer quelqu'un, le comportement sur une certaine période. Et puisqu'on sait que Jean, il a passé 3 ans avec Jésus, donc il indique déjà, oui, moi j'ai passé quelques années avec cet homme, je parle de Jésus maintenant. Donc, la première chose que Jean, il nous dit ici, que Jésus, il est cette personne qui était dès le commencement, il est la même chose que les Écritures. Donc Jésus était avec Dieu au début, et Jésus, il est Dieu. Donc il s'adresse avec ce message aux Juifs. Les Juifs, en effet, ils n'avaient pas de problème à accepter l'humanité de Jésus. Ils l'ont vu. Beaucoup de gens l'ont vu pendant ces périodes où il était vivant. Beaucoup de gens l'ont même suivi sur ses voyages. Donc ils n'avaient pas de problème à reconnaître son aspect humain. Mais ils avaient plutôt un problème à reconnaître sa divinité. Donc c'est pour ça, en fait, que Jean, donc, prend cette référence, c'est lui qui est la même chose que les Écritures, toutes nos traditions qu'on a, et celui qui est au commencement. Mais dans le deuxième verset, il emploie un mot pour parole de vie. Le mot grec utilisé, c'est logos. Et par ce mot-là, en fait, on voit que Jean s'adresse maintenant aux païens, païens surtout représentés par les Grecs à l'époque. Parce qu'en fait, le mot logos, c'était le mot que les Grecs ils utilisaient pour décrire le créateur de l'univers et celui qui dirige en fait tout. La philosophie ou la religion des Grecs a reconnu l'existence d'un créateur, d'un dieu ou même de plusieurs dieux qui a tout créé, qui règne souverainement. Mais ils avaient du mal à s'imaginer que ce dieu, il prend contact avec l'homme. Et surtout qu'il prend même la forme humaine. Et Jean était le dernier des survivants des apôtres. On suppose qu'il a même écrit cette lettre qu'on vient de lire à l'âge de 100 ans. Donc après avoir voyagé beaucoup dans la région de la Turquie où Paul avait fondé les églises. Et probablement au cours des voyages, il a remarqué qu'il y avait justement une infiltration dans ces églises d'une fausse doctrine qui est justement basée sur un mélange de la foi chrétienne avec les croyances grecques. Cette fausse doctrine a été appelée par après le gnosticisme. Et en fait, le gnosticisme a justement il dit que Jésus n'était pas vraiment un être humain. Mais en effet, en disant cela, il nie vraiment le contact que Dieu a pris avec l'homme. Cette doctrine, elle détruit le sacrifice que Jésus a fait en devenant un être humain. Cette doctrine, elle détruit l'œuvre que Jésus a fait pour nous à la croix. Et elle nous éloigne aussi de nouveau à une distance insurmontable de Dieu. Parce que si Dieu n'a pas pris contact avec nous, nous on est incapables de prendre contact avec lui. Donc voilà pourquoi, encore une fois dans le deuxième verset, Jean il nous dit, il s'est manifesté, je l'ai vu, et je vous témoigne de ce que j'ai vu, que c'était en fait vraiment un homme, mais c'est en fait aussi vraiment Dieu. Donc pour les Grecs, c'était plutôt important de souligner la possibilité de relation avec Dieu sur un niveau humain. C'est intéressant parce que ces deux courants-là sont toujours les deux idéologies qui s'opposent le plus à la foi chrétienne. Soit les sectes qui disent que Jésus n'était pas vraiment Dieu, comme les témoins de Jéhovah ou d'autres sectes, soit d'autres religions qui interposent quelque chose entre Dieu et l'homme, parce qu'ils disent oh, Jésus n'était pas vraiment homme, il n'a pas vraiment pris le contact avec nous, on a besoin de quelque chose d'autre. Mais la Bible, elle nous dit clairement, c'est Paul qui nous a écrit dans la première lettre à Timothée, chapitre 2, verset 5, il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, l'humain Jésus-Christ. Et en fait, donc, Jean, il souligne ici que c'est vraiment important que nous croyions que Jésus est Dieu, qui existait avant la création, qui est même à l'origine de toute la création, et qu'il est devenu un être humain pour prendre contact avec nous. Et après, encore dans le verset 2, il continue en nous disant « Nous vous annonçons la vie éternelle. » Donc là, il ne nous dit pas seulement que Jésus il était à l'origine de toute création, qu'il est venu comme homme pour prendre contact, mais qu'il est éternel, donc il parle du futur. Il va aussi exister dans le futur éternellement. Et c'est très logique si on voit que Jésus il est à l'origine de toute création, s'il est à l'origine de la création de toutes les galaxies, les systèmes solaires qu'on voit, toutes les planètes, toute la vie, tous les animaux, on doit aussi se rendre compte qu'en fait, il est à l'origine, il a créé les dimensions. Dieu a créé les trois dimensions, hauteur, largeur, profondeur, où tout existe. Et puisqu'en fait, Dieu, Jésus, il a créé les dimensions, il est indépendant des dimensions, parce qu'il a existé avant les dimensions. Donc voilà pourquoi, en fait, il est omniprésent. Et c'est la même chose avec le temps, puisque le temps aussi, il a été créé à un certain moment, et Jésus, il était avant cette création, donc il est indépendant du temps, et voilà pourquoi il est éternel. Parce qu'en fait, les dimensions et les temps, un jour, ils vont être abolis, et Dieu, il va toujours exister. Puisque Jésus, il est donc omniprésent et éternel, la mort n'a pas pu le retenir. Il doit exister. Et c'est pour ça qu'il nous a dit, après, qu'il est retourné auprès du Père pour nous préparer un endroit. C'est de nouveau dans l'évangile de Jean, c'est toujours Jean qui nous dit ça. Chapitre 14, verset 2. Jésus dit, « Il y a plusieurs demeures dans ma maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. » Donc en fait, si Jésus il est parti pour nous préparer un endroit, il va aussi revenir pour nous prendre. De nouveau, dans l'évangile de Jean, chapitre 17, verset 24. « Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donné soient aussi avec moi. » En effet, il y a, si j'ai bien regardé, 318 références dans le Nouveau Testament sur le retour de Jésus. 318. C'est en moyenne, c'est un verset sur 30 qui nous parle du retour de Jésus. Et on sait bien que dans l'Ancien Testament, il y avait plein de références sur la première venue de Jésus. Mais comparé à ça, il y a 8 fois plus de références sur la deuxième venue de Jésus. Donc il va revenir encore une fois. 8 fois plus que sur sa première venue sur terre. Donc ça nous indique vraiment la réalité et la force avec laquelle Dieu veut nous faire comprendre qu'il va revenir. C'est marqué aux premières lettres Thessaloniciens, dans le chapitre 4, versets 16 à 18. Paul nous décrit un peu comment ça va se passer. Car le Seigneur lui-même, avec un cri de commandement, avec la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et ceux qui sont morts dans le Christ se relèveront d'abord. Ensuite, nous les vivants qui restons, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Encouragez-vous donc les uns les autres avec ces paroles. Dans la lettre aux Corinthiens, chapitre 15, verset 52, Paul nous écrit ici, « Dans un instant et en un clin d'œil, à la dernière trompette, car elle sonnera et les morts se réveillant impérissables et nous, nous serons changés. » Donc deux fois Paul nous écrit de cet enlèvement qu'on va vivre, mort ou vivant, et qu'on sera changé d'une seconde à l'autre. C'est un peu difficile à s'imaginer, ça fait un peu expérience Star Trek. D'un moment à l'autre, on sera là-haut, on va voir Dieu, on va louer Dieu. Mais en fait, c'est pas quelque chose de si anormal dans la Bible. C'est quelque chose qu'on a déjà vu dans la Bible, qui s'est déjà passé. Il y a quelques hommes qui ont déjà vécu une chose pareille. Par exemple, Philippe, qui parlait à l'Éthiopien sur son chemin, et après le baptême, en fait, il a été enlevé par Dieu et il a été transporté à un autre endroit, un autre village, assez loin même. Et donc, Philippe, il a vécu une chose pareille, d'être enlevé d'une seconde à l'autre sur un endroit différent. Et même Paul, c'est peut-être un peu moins évident, mais même à Paul, une expérience pareille est arrivée. Il décrit dans la deuxième lettre aux Corinthiens, au chapitre 12. En fait, là, il écrit plutôt dans un récit en troisième personne, mais c'est clair qu'il parle de lui-même, qu'il a été enlevé au paradis un jour, qu'il a vu et entendu des choses qui sont extraordinaires. Donc en fait, c'est pas étonnant que Paul nous décrit cet enlèvement de l'Église avec une certitude, avec comme si c'est quelque chose de tout normal, parce qu'il a vécu lui-même une chose pareille, d'être enlevé au paradis, de voir Dieu et savoir que c'est vraiment une réalité. Mais en fait, c'est pas vraiment le sujet de ce soir de voir toute la différence entre l'enlèvement de l'Église et le retour de Jésus sur la terre. Mais très brièvement, c'est en fait très important qu'on comprenne que c'est deux événements distincts. Parce qu'en fait, Jésus, il va d'abord revenir pour l'enlèvement de l'Église, ce qui est une bonne nouvelle pour nous. Et le retour de Jésus sur terre pour régner d'abord 1000 ans, avant qu'on va partir pour le nouveau Jérusalem, c'est quelque chose qui va se passer plus tard. Et il y a plein de différences décrites dans la Bible qui nous indiquent aussi que c'est deux événements différents. Il y a eu un long débat théologique, je crois qu'il existe toujours là-dessus, à quelle période les deux événements vont prendre place. Et donc pour vraiment différencier entre les deux événements. Mais pour moi, c'est clair que l'enlèvement de l'Église aura lieu avant le retour de Jésus qui sera pour le jugement. Parce que même si on compare ça à l'Ancien Testament, les jugements ont toujours été pour ceux qui ne voulaient pas entendre le message de Dieu. À chaque fois que Dieu a fait un jugement sur terre, il a donné un moyen, un chemin pour échapper au jugement. Par exemple, avec Noé, il a dit qu'il va construire un bateau et que tous ceux qui y croient, ils vont rentrer dans le bateau, ils vont pas subir le déluge. À Lot, il a dit de quitter la ville avant qu'il va détruire la ville. Et je crois que de même, Jésus, il va revenir et prendre ceux qui croient en lui, il va prendre son Église avant la période de l'affliction, cette période difficile qui va durer 7 ans. et apprend qu'il, après, avant qu'il va venir pour vraiment juger donc tous les non-chrétiens. Donc ces deux événements qui sont différents, qui sont distincts, avec encore d'autres différences. Alors l'enlèvement, c'est marqué qu'on va rencontrer Jésus dans les nuages. Le retour de Jésus, il sera vraiment quand Jésus va revenir sur terre, il va toucher la terre. L'enlèvement, c'est inconnu dans le temps, donc on ne sait pas quand il va revenir. Il va venir comme un voleur, donc dans un... les voleurs, normalement, ils ne disent pas avant qu'ils viennent. Et le deuxième retour, on sait bien qu'il sera 7 ans après, donc dès que l'enlèvement aura lieu, on peut bien calculer le deuxième retour. Mais le plus important, c'est le but, et c'est pour qui en fait les deux événements. Le premier, c'est pour les chrétiens, c'est pour nous préserver de quelque chose. Et le deuxième retour, c'est pour tous ceux qui restent, et c'est pour un jugement. Et donc, l'enlèvement, c'est une bonne nouvelle pour nous. Sinon, Paul ne dirait pas dans la première lettre aux Thessaloniciens qu'on vient de lire, encouragez-vous les uns les autres. Donc, ça nous indique que l'enlèvement, c'est vraiment une bonne nouvelle pour nous, la bonne nouvelle de ne pas subir cette période d'affliction. Mais en fait, ce que je voulais vous démontrer ce soir, et vous rendre conscient de nouveau, c'est que la bonne nouvelle pour nous, c'est que ce Dieu qui était avant la création, qui a tout créé, il a même créé le temps, il est venu sur terre, il est devenu homme comme nous, pour avoir une relation, un contact avec nous. Il a fait un pont éternel entre Dieu et nous, et que ce même Dieu, il va revenir un jour pour nous prendre et pour qu'on va passer l'éternité avec lui. Donc, qu'on voit que c'est la grandeur de Dieu qui est depuis toujours jusqu'à toujours et qui veut prendre vraiment un contact personnel avec nous et qui a déjà un contact personnel avec nous. En fait, il y a quelques jours, je me suis promené dans la forêt, c'était juste après avoir enseigné à l'école biblique pendant 8 heures la journée, donc j'étais vraiment fatigué. J'avais plein de pensées dans la tête et j'avais une deuxième journée de 8 heures devant moi. Donc j'étais un peu fatigué, un peu dans les nuages aussi. Et je me suis promené un peu dans la forêt juste pour me reposer un peu et aussi pour prier, pour parler à Dieu. Mais j'étais trop fatigué pour vraiment prier. J'ai dit à Dieu, bon, je vais laisser couler les pensées si tu veux, tu me parles. Et en me promenant dans la forêt, soudainement, j'ai remarqué qu'il y avait un changement. C'était devenu un peu plus noir. Et je regardais autour de moi et j'ai remarqué qu'il y avait des arbres, mais énormément autour de moi. J'étais vraiment là, je regardais les arbres et je me disais, oh, ils sont grands. Ils sont vraiment grands. Ils sont énormes. Et quand j'ai regardé en haut, je regardais ces arbres qui étaient vraiment énormes. J'avais l'impression que Dieu me parle. Il me dit, t'es impressionné par ces arbres? Regarde encore plus haut, regarde le ciel, les étoiles. Et moi, je suis encore plus grand que tout ça. Et en fait, ça m'a un peu montré que toutes mes pensées, toutes les angoisses que j'avais, je savais pas qu'est-ce que je vais dire le lendemain et tout ça. Dieu m'a montré, tu crois que c'est un grand problème? Et moi, je suis encore plus grand que ça. Donc, je crois que c'est vraiment important d'avoir une bonne image du Dieu qu'on connaît, de voir quelle grandeur il a, pour voir, oui, c'est avec qui qu'on a une relation, pour être vraiment émerveillé par ce Dieu qui a une relation avec nous. Et en fait, Jean, il a fini ici par nous dire, ça nous rend une joie complète. Il écrit aussi dans l'évangile de Jean que Jésus, il a dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Et aussi qu'il a dit, je parle ainsi dans le monde pour qu'ils aient en eux ma joie complète. Donc en fait, la Bible, elle nous dit, c'est possible d'avoir une joie qui est vraiment une joie complète. Une joie qui vient du fait qu'on connaît un Dieu, le vrai Dieu, qui est vraiment grand. Et en fait, tout le passage qu'on vient de voir, les quatre versets, dans le texte original, c'est une seule phrase. Donc on voit que c'était important pour Jean de dire, c'est une seule pensée. C'est une pensée cohérente de dire, c'est le même Dieu qui était, qui est venu et qui va venir encore une fois. Est-ce qu'on est conscient de quel Dieu on parle, avec quel Dieu on a une relation? Et est-ce qu'on ressent vraiment cette joie dont parle Jean? Ou est-ce qu'il y a quelque chose qui empêche cette joie? Peut-être qu'on ne se rend pas compte de quel Dieu on parle. Peut-être qu'on n'a pas vraiment la communion étroite avec lui. Peut-être qu'il y a quelque chose qui empêche en nous cette joie. Et pour commencer donc le week-end, j'aimerais bien que on demande Dieu pour qu'il nous ouvre les yeux et qu'il nous fait rentrer dans cette perspective de voir vraiment qui il est et qu'il nous remplisse de cette joie profonde et qu'il enlève tout ce qui empêche cette joie.